La France bouge. Elisabeth Assayag.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Je suis ravie de vous retrouver. J'ai trois quarts d'heure pour vous montrer que même l'été, la France se bouge, se mobilise, invente et imagine la société de demain. Gros plan aujourd'hui sur notre façon de manger, consommer local. Depuis la crise du Covid-19, les consommateurs privilégient de plus en plus les circuits courts, les circuits de proximité et vous allez découvrir des entrepreneurs qui imaginent des solutions pour nous permettre de manger le plus local et le plus sainement possible. C'est le dossier du jour, mais ce sera après un pitch et une solution. C'est ça, la France qui bouge.
Europe 1.
La France bouge à mes côtés pendant toute l'émission. Dora Nana de la rédaction d'Europe 1. Bonjour Dora.
Bonjour Elisabeth.
Et bonjour à vous Catherine Testa.
Bonjour à Elisabeth.
Notre coach de la semaine, vous êtes la présidente du club des Chief Happiness Officers. Alors, c'est pas simple de se lancer pendant la crise et pourtant, ils le font comme vous, Florian Collat. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être sur Europe 1. Vous êtes le cofondateur de l'appli Exode. Exode, ça s'écrit E-X-O-D. Et vous proposez des activités près de la maison. Est-ce que vous allez vous démarquer par rapport à ce qui existe déjà? Vous allez tout nous expliquer. C'est parti pour votre pitch. Vous avez 1 minute 30.
Merci. Exode, c'est l'appli pour faire sortir les gens de chez eux. Notre histoire, elle a commencé pendant le confinement. On a pas mal discuté avec des amis, des entrepreneurs sur nos loisirs. On s'est rendu compte que toutes les semaines, on se posait les mêmes questions. Qu'est-ce qu'on fait ce week-end? On va où? Quelle activité on pourrait faire ensemble? Et on est un peu des milliers dans le même cas. Finalement, on ne connaît pas forcément très bien ce qu'il y a à faire près de chez nous. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on ait une source d'inspiration, des idées que l'on puisse partager en famille, entre amis. Du coup, on a développé Exode. Notre but avec cette appli, c'est de tuer l'ennui et de faire sortir les gens de chez eux. Donc pour l'utiliser, il suffit de se connecter sur exode.app et de se géolocaliser. Et l'app nous propose des idées d'activités au hasard. Donc ça peut être des idées de balade, des coins de baignade, des super randos, un escape game, découvrir en le caché, etc. Et dans l'usage, on s'est pas mal inspiré de café Tinder. Donc en gros, on vous propose une idée d'activité. Si elle vous plaît, vous pouvez soit voir plus de photos, soit lire plus d'infos et savoir comment aller sur le lieu. Si elle ne vous plaît pas, il suffit de passer à l'activité suivante. L'appli, elle cible les jeunes actifs, donc les 25-35 ans. En fait, on leur a créé des univers pour eux, indoor, outdoor, fraîcheur pour l'été et gourmand, pour qu'ils puissent filtrer les activités selon leur envie ou la météo. Et comme notre équipe, elle est basée à Montpellier, on a lancé Exode en premier sur la ville de Montpellier. D'ici à la fin de l'été, on vise les 20 000 utilisateurs dans la région de Montpellier. Notre ambition, c'est d'ouvrir 10 grandes villes françaises.
Florian, voilà, Exode. Florian, merci pour votre pitch. Vous nous avez bien décrit l'appli Exode. Vous êtes allé même un petit peu au-delà de la minute 30. Je me tourne vers notre coach Catherine Testa qui vous pose la première question.
Alors, première chose, bravo pour l'idée. Effectivement, je crois que toute l'équipe ici, on fait la même chose le week-end.
Et c'est le même constat.
Que on se pose tous la même question.
Il y a forcément un marché. Alors là, vous développez ça sur Montpellier. Première question, je pense logique. Quand est-ce que vous développez ça ailleurs?
Ben, par la suite, en fait, la première chose qu'on veut vérifier, c'est que même sur Montpellier, les utilisateurs vont adhérer à l'idée de, un peu sur le modèle de Tinder, d'apporter des idées au hasard. Une fois qu'on aura vérifié ça, qu'on aura les utilisateurs, on ouvrira les autres villes. Il faut qu'on ait des ambassadeurs sur place qui nous permettent d'ouvrir des villes. Donc, pour l'instant, on se focalise sur Montpellier. On veut vraiment être sûr que ça marche.
Et sur Montpellier, vous faites appel à une équipe d'influenceurs locaux. Comment vous communiquez sur les réseaux sociaux?
Déjà, on va communiquer sur les réseaux sociaux. La presse locale, on connaît localement, on est d'ici, donc on connaît les personnes qui peuvent faire parler de nous. Après, on va beaucoup miser sur le bouche à oreille, parce qu'en fait, les gens, le but, c'est qu'ils partagent à leurs amis les idées d'activité. Du coup, quand leurs amis ou leur entourage, en tout cas, doivent s'inscrire pour voir l'activité. Donc, on compte sur le bouche à oreille, en fait.
Alors, par exemple, les activités fraîcheur pour l'été, vous proposez quoi?
Parlons de Montpellier, il y a un lac qui s'appelle le lac de Cécélès. Donc, on propose l'idée, c'est une balade au lac de Cécélès. Donc, là-bas, on peut pique-niquer, faire une petite rando, un peu de vélo. Il y a aussi plein de cascades autour de Montpellier. Donc, voilà, c'est ce genre de coin où on s'éloigne justement des plages où ça va être bondé. Et on va un peu dans l'arrière-pays. C'est un peu ça l'idée de montrer aux gens des petits coins perdus comme ça.
Et moi, je voulais vous demander, on fait quoi ce week-end? C'est aussi valable pour les familles. Souvent, quand on a des enfants, on est perdu. Vous proposez un onglet spécial parents-famille?
Alors, pas encore. Là, on cite vraiment les jeunes. Bah, ceci dit, moi, je suis parent, hein, je suis papa, donc ça m'intéresse aussi. Mais effectivement, on va rajouter au fur et à mesure, en fonction
des
demandes.
Vous allez développer.
Ouais, des filtres avec enfant ou sans enfant.
Catherine,
est-ce que l'utilisateur peut lui-même vous suggérer des lieux à visiter, des
Est-ce que ça
gîtes,
peut être collaboratif, ouais. finalement ? C'est ça que vous...
Oui.
Totalement, on compte sur les utilisateurs et les prestataires locaux qui également, eux, ont intérêt à faire connaître leur lieu. Tout le monde pourra proposer une activité ou une idée de lieu. Et nous, en fait, on va tout modérer. On veut juste que ça soit dans notre charte et notre... il ne faut pas que ça soit décorrélé de ce qu'on propose à la base. Mais en tout cas, ça sera ouvert, oui.
Comment vous allez pouvoir vous rémunérer par rapport à ce que vous mettez en place ? Quel est votre modèle économique ?
Le modèle économique principal, c'est le modèle des médias, c'est-à-dire qu'on va apporter de la visibilité à des prestataires locaux. Donc, ils vont pouvoir mettre en avant soit des événements, soit des lieux dans l'application.
Et en contrepartie, vous avez quoi ?
En contrepartie, nous, on va faire payer à la visibilité les utilisateurs qui vont voir l'appli, qui vont voir l'activité dans l'appli, vont pouvoir se dire je suis intéressé pour aller dans ce lieu. Et voilà, c'est de cette manière-là qu'on va attirer des potentiels prestataires qui veulent communiquer.
Catherine, Dora, convaincue ?
Alors, oui.
Oui, moi je suis assez partante sur la famille quand même, parce que je me dis qu'avec des enfants, on se casse souvent beaucoup la tête à savoir comment
donc
les occuper.
Donc ce sera pour la prochaine version.
Et ça, c'est la prochaine
Catherine.
Version.
Catherine,
j'aime l'idée de laisser le hasard un peu guider
le hasard
temps.
Des rencontres,
exactement.
Le hasard de ce qu'on rencontre.
Exactement.
Ça s'appelle Exode, EXOD. Merci à vous, Florian Collat. Et puis surtout, donnez-nous de vos nouvelles, parce qu'on aime bien la France Bouge, savoir ce que vous devenez après un petit passage chez nous.
Super, merci beaucoup à vous. C'est super sympa.
Europe 1.
Comment trouver facilement un kinésithérapeute qui se déplace à la maison, surtout quand il y a une urgence ? C'est la solution du jour portée par Dora Nana. A tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag.
Trouver un kinésithérapeute qui se déplace à domicile, surtout quand on en a besoin rapidement, ça existe. Et vous l'avez trouvé, Dora, c'est votre solution du jour.
Ça s'appelle Gudule. Il est souvent difficile aujourd'hui, en effet, de trouver un kiné qui se déplace à domicile. Gudule, donc, c'est un outil intelligent qui met en relation des patients qui, eux, sont bloqués chez eux et des kinésithérapeutes qui, eux, se déplacent. Fallait y penser, c'est intelligent. C'est une solution qui arrive à point nommé, en plus, parce que dans notre système de santé actuel, l'ambulatoire est amené à se développer de plus en plus à l'avenir. Et on aura davantage de personnes âgées qui seront maintenues en autonomie chez elles. Bonjour, Agathe Gobel.
Bonjour.
Vous êtes la cofondatrice de Gudule, merci d'être avec nous sur Europe 1. Alors vous êtes vous-même kinésithérapeute, vous avez créé Gudule pour répondre à un besoin actuel, c'était pressant.
Alors effectivement, donc je suis moi-même kinésithérapeute et pendant un stage hospitalier, je me suis rendu compte que mes patients avaient du mal à trouver un kiné en sortant de l'hôpital et pourtant c'était nécessaire pour la continuité de soins. Et de là en fait est venue en fait l'idée d'un réseau de kinés à domicile et j'en ai parlé à un ami, kiné également, et à la suite de notre diplôme, on a créé ce réseau de kinés et on a essayé de répondre aux problématiques qu'engendrer cet exercice à domicile.
Problématique donc 1, c'est comment prendre rendez-vous. Donc vous, en fait, sur votre plateforme, c'est un agenda numérique pour les kinés déjà. Parlons
voilà.
De cette partie-là.
C'est exactement ça. On fait un agenda intelligent et on essaye de rendre attractif la kiné à domicile. On décharge complètement le kiné de toute organisation. C'est nous qui gérons les appels, on gère les tournées, on gère l'agenda totalement. Du code d'accès à la prise de rendez-vous en passant par les aléas de la kiné à domicile.
Et côté patient, alors à qui ça s'adresse ? C'est pas n'importe qui. Moi, si j'ai une fracture et que j'ai du soin à domicile derrière, je peux me déplacer, je ne rentre pas dans votre système.
Alors, si vous pouvez vous déplacer, effectivement, le soin à domicile n'est pas forcément prescrit. Donc, dans ce cas-là, nous, on ne s'adresse pas à ces patients-là qui peuvent se déplacer en cabinet. Nous, on s'adresse vraiment aux personnes qui sont bloquées de manière soit temporaire, soit permanente à domicile. Notamment les personnes âgées, nos aînés, mais aussi des patients plus jeunes qui, à la suite d'un accident, se retrouvent temporairement bloqués à domicile.
C'est vachement bien parce qu'il y a énormément chouette. De personnes âgées, moi je peux le dire, hein, dans mon entourage, qui demandent des kinés et comme elles sont très âgées et qu'elles ne peuvent pas se déplacer, eh ben, on n'en trouve pas.
Effectivement, 70% en fait, de la consommation d'actes de kiné à domicile est réalisée chez des patients de plus de 80 ans. Voilà.
Et ça leur simplifie la vie parce que quelque chose qui est génial chez vous, c'est que vous avez un service téléphonique. Oui. Ça, ça se fait tellement plus qu'il faut le souligner.
Oui, ça, faut le souligner. Ça, c'est une vraie valeur en fait, de Gudule, c'est l'accessibilité aux soins pour tous. Certains de nos aînés et des personnes âgées ne peuvent pas utiliser Internet et donc en fait sont totalement mis à l'écart de la société. Nous, on a un standard téléphonique qui permet en fait de prendre rendez-vous.
Ouais, c'est-à-dire qu'on appelle et c'est Maxime qui d'ailleurs est présent dans la salle qui nous répond.
Oui.
Et là, il nous oriente et il organise, il planifie pour nous patients tous nos rendez-vous.
C'est exactement ça. De la première séance bilan, qui dure généralement 45 minutes, une heure, jusqu'à en fait, l'ensemble de la prise en charge, la récurrence de soins.
Mais moi, je pense toujours à ma grand-mère. Si la personne n'entend plus très bien, moi, je peux, à sa place, vous dire, voilà, est-ce que vous pouvez venir la voir ? Elle n'arrive plus à marcher. C'est quelque chose que vous pouvez faire. Même s'il n'y a pas une pathologie existante déclarée. Quand on est âgé, parfois, c'est juste que ça ne fonctionne plus, tout simplement.
Oui. Et dans ce cas-là, généralement, le médecin en fait, généraliste, qui la voit régulièrement, a prescrit des séances de kiné à domicile.
Voilà, il faut que ça ait été prescrit.
Voilà, on est kiné, on travaille sous prescription médicale. Et donc, du coup, il faut que la mention à domicile soit justifiée par un médecin.
Et vous facturez combien votre service ? C'est-à-dire, c'est vous facturez au kiné exclusivement ?
Alors, on facture au kiné, on ne facture pas aux patients. D'où cette valeur de l'accessibilité aux soins. Sinon, il n'y aurait que les patients qui ont les moyens, qui auraient la capacité de payer de la kiné à domicile. Donc, nous, notre service, il est gratuit pour les patients et pour les structures hospitalières. Et en fait, on facture au kinésithérapeute un abonnement mensuel. Compris entre 40 et 150 euros par mois. Il faut savoir que par rapport à ce qu'il pourrait trouver en cabinet, c'est 15 fois moins cher. Donc voilà, nous, certes, il y a un abonnement mensuel, mais ça reste 15 fois plus compétitif de ce qui se passe aujourd'hui.
Notre coach, Catherine Testa, ça vous inspire ?
Complètement, d'autant que sur votre site, vous marquez que c'est simple, gratuit et humain. Et j'ai bien aimé cette notion d'humanisme, en fait, parce qu'on parlait des personnes âgées qui en ont parfois besoin.
Beaucoup même.
Voilà, exactement. Ouais. Qui sont les kinés qui viennent sur votre plateforme, qui ont le goût peut-être d'aller à la rencontre de l'autre ? C'est pas la même chose que de pratiquer en cabinet ou en milieu hospitalier, j'imagine ?
Alors, c'est un exercice qui est totalement différent.
C'est très différent, parce que moi, j'ai vu beaucoup de kinés réfractaires qui ne voulaient pas se déplacer.
Oui, ils ne voulaient pas se déplacer. Alors, on attire des kinés, en fait, qui ont besoin d'avoir ce sentiment aussi d'utilité, qui sont fiers de leur métier et qui aident l'autre, en fait. Aider son prochain, c'est très, très important. La notion d'humain, aujourd'hui, notre service, il est basique, si je puis dire. On fait de la mise en relation, de l'optimisation de tournée. Mais surtout, on apporte une personne humaine au domicile de la personne. On n'est pas là à créer une machine pour compenser le fait qu'on ait raté quelque chose dans notre système.
Il y a aussi un lien qui se met en place quand il va venir au domicile de la personne âgée.
Il y a un lien qui se crée. On apporte aussi de la jeunesse. En moyenne, on a 27 ans dans notre réseau. Okay. On apporte cette jeunesse, cet échange intergénérationnel. On est là, par exemple, pendant la crise du Covid, le nombre de kinés qui ont installé WhatsApp sur le téléphone en fait, des patients pour qu'ils puissent garder un lien. Cette notion de humain, c'est vraiment très, très important.
Vous êtes présent partout en France ?
Alors aujourd'hui, on est présent sur Paris, la Petite Couronne et à Orléans. En septembre, on sera présent à Nantes et probablement donc dans d'autres villes. On va essayer de grandir. L'objectif, c'est de garder un réseau de qualité. C'est pas forcément de croître de manière exponentielle, c'est de garder ce réseau de qualité.
Ça s'appelle Gudule et on le vous souhaite et c'est une formidable idée pour avoir un kiné à domicile, surtout pour les personnes âgées là en cette période de l'été. C'est hyper important. Merci.
Merci beaucoup.
Europe 1.
Des produits français, frais et issus des circuits courts, le consommer local gagne du terrain en France. On va en parler et c'est le dossier du jour. À tout de suite.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag.
Ça vous donne envie, non ? Je vois Dora qui est en train de danser dans le studio. Catherine aussi. Oui, mangez-moi. Mais bon, relocaliser, ça ne signifie pas couvrir à tout prix 100% des besoins locaux. Ça signifie produire autant que possible localement. Et c'est notre dossier du jour, hein, manger local. Bonjour Emmanuel Rose.
Bonjour.
Merci d'être sur Europe 1. Vous êtes la cofondatrice de Loup Légumes. Loup Légumes, elle est installée en Bretagne. Et vous, il y a 5 ans, vous avez eu une idée totalement folle. Hein, si vous avez dû, les gens ont dû vous écouter et être assez étonnés parce que vous avez voulu relocaliser la production de champignons en France parce que la production, c'était un savoir-faire qui était quasiment, qui avait quasiment disparu hein, sur notre territoire.
Exactement. Alors les gens le savent pas forcément, ils en ont pas forcément connaissance, mais aujourd'hui, la production française, elle couvre à peine 30% des besoins du marché. Donc ça veut dire que 70% des champignons qu'on consomme en France sont issus de l'importation. Donc nous, on connaissait bien le sujet puisqu'on était importateur de champignons, hein, mais on savait bien qu'il nous manquait une clé de réussite dans notre entreprise, c'était la production française. Donc on n'était pas du tout producteur de champignons à la base, c'était pas notre métier, et on aurait voulu que nos producteurs partenaires investissent en France. Mais c'est vrai que la France a des étrangers, ça peut faire peur. Donc du coup, on s'est dit, puisque personne ne veut le faire, c'est nous qui allons devenir producteurs. Donc on a appris le métier et on est devenu producteur de champignons français il y a 5 ans.
Donc vous avez imaginé des champignonnaires de temps moderne, c'est ça ?
C'est ça. Alors on s'est inspiré de ce qui existe aujourd'hui hein, en champignonnière en Europe. Donc les plus gros pays d'Europe qui produisent du champignon, c'est les Pays-Bas, la Pologne et puis l'Irlande. Donc on est allé visiter tous ces pays, on a rencontré beaucoup de gens, on avait déjà beaucoup de partenaires dans le champignon, donc on a visité beaucoup de champignonnières et on a créé notre propre champignonnière. Donc nous, on est une entreprise familiale, hein, donc mon mari a dessiné la champignonnière lui-même en s'inspirant des meilleurs modèles qu'on avait vus. Donc, on a coutume de dire ici hein, que c'est vraiment la technologie au service de la naturalité parce qu'on produit comme avant. Hein. C'est juste que l'avantage qu'on a, c'est que comme on a un système où on vient réguler l'humidité, la température, le taux de CO2 avec des outils informatiques et qu'on a un bâtiment neuf, en dur, ça nous permet de ne pas utiliser du tout de pesticides. Parce que dans les caves avant, pour éliminer les moisissures externes, on était obligé d'en utiliser. Donc, on a un produit qui est 100% naturel, hein, puisque c'est ce qu'on dit, nous, on fait pousser notre produit uniquement avec de l'eau. Donc, c'est très sain. Voilà.
Bon, en tout cas, c'est très sain et c'est un énorme succès. Hein. 5 ans après, les demandes affluent partout.
Oui, parce que c'est vrai que on a tous, hein, vous disiez dans l'introduction de votre émission, hein, on a tous besoin et envie de consommer local. Le champignon, c'est encore plus important de consommer local parce que c'est un produit qui est extrêmement fragile et donc qui a besoin d'être transporté le moins possible, qui a besoin d'être touché le moins possible, transporté le moins possible, qui se conserve très peu de temps. Donc c'est vrai que plus c'est local, plus c'est proche et plus on va avoir un champignon qui va être excellent. En plus, nous, on a développé un process dans lequel on utilise beaucoup moins d'eau. Donc on va avoir un champignon qui est plus ferme, qui rend moins d'eau et qui a plus de goût, quoi.
Alors, en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que quand on va sur votre site web, on peut se prendre de passion pour la culture du champignon. J'ai découvert plein de choses et quelque chose d'incroyable, c'est que vous mettez en avant toute votre équipe. Je crois que vous êtes 130 et on sait
ils
que...
Ils sont 130 en 5 ans.
Incroyable.
Hallucinant.
Mais surtout, il y a marqué que Magali cueille, etc. Et je trouve cette aventure familiale, c'est très touchant. Et maintenant, quand je vais regarder les champignons en rayon, je vais choisir les vôtres parce que c'est vraiment très beau.
Ouais, alors, vous verrez qu'on est aussi notre équipe en avant sur tous nos emballages, parce que les salariés qui ont voulu participer, on a fait un photoshoot pour les nouveaux emballages, et donc ils sont en photo sur les différentes références. En fait, il y a différentes photos de nos salariés.
Donc ça personnalise et ça donne une proximité avec votre produit. Hein.
Et c'est une aventure humaine aussi.
Tout à fait, mais c'est une grande aventure humaine. Vous disiez qu'on était 130, on est 160 hein, maintenant. C'est vrai que les premiers qui sont arrivés pour travailler avec nous, ça a été, ils ont essuyé les plâtres hein, parce que c'est pas, comme vous disiez tout à l'heure, on était un peu fous parce que c'est vrai que créer 150 emplois en France, c'est comme ça d'un seul coup.
En 5 ans, bravo à vous, bravo.
Mais on a aussi beaucoup, donc on est une entreprise familiale, on a un esprit de famille et d'ailleurs on a beaucoup de familles qui travaillent chez nous, les gens ils travaillent en famille chez nous quoi. Ils invitent leurs cousins, leurs frères, leurs sœurs, leurs maris,
c'est ça. Et donc c'est une grande famille. Dora, les Français sont passés à un mode de consommation plus local depuis la crise, ça se confirme
En tout cas, il plébiscite désormais la proximité et un retour aux sources, un mode de vie adopté pendant le confinement, comme vous l'avez dit, et qu'ils aimeraient voir perdurer. Selon une enquête BVA récente, ils sont 60% à souhaiter modifier totalement leur manière de consommer en privilégiant des achats locaux et évoquent notamment l'envie de faire leurs courses en circuit court et de privilégier les petits producteurs. Autre chose intéressante, ils sont très nombreux à souhaiter que les villes soutiennent les commerçants locaux. Près de la moitié des Français souhaitent que les entreprises relocalisent certaines de leurs activités aussi. Et 40% des Français veulent que les entreprises soutiennent l'économie locale en privilégiant les circuits courts.
Ouais. C'est hyper important, c'est très fort. Et d'ailleurs, concernant Emmanuel Rose, concernant Loup Légumes, vous allez investir près de 12 millions d'euros avec un projet pour agrandir aussi votre site.
Oui, alors on a annoncé un deuxième site à Landivy, donc dans les Pays de la Loire, qui n'est pas très loin de chez nous en fait, hein, c'est une région limitrophe. On agrandit aussi notre site actuel en Bretagne et on vient d'annoncer un troisième site qui verra le jour début 2022 et qui sera, lui, en Auvergne, au Puy-en-Velay.
Ah bah donc, trois sites. Vous avez dû former du personnel pour la cueillette parce que c'est long.
Alors, on a
formé
tout le monde.
À tout le monde, toute l'entreprise.
Parce que personne n'est... Enfin, je veux dire, on a formé tous les cueilleurs, bien évidemment, mais on a formé tous les gens à ce métier. Personne n'est arrivé ici en disant qu'il savait cueillir.
Ouais, c'est un processus très délicat.
C'est perdu. C'est extrêmement délicat. Ça demande à peu près 3 mois de formation. Donc, les gens apprennent un vrai métier avec un vrai savoir-faire. Mais c'est vrai que c'était compliqué au début puisqu'on n'avait pas du tout de gens qui savaient cueillir. On en a fait venir de l'étranger pour qu'ils apprennent à nos cueilleurs. Et puis maintenant, on a une grosse équipe qui pourra former les gens des autres sites. Donc, ce sera quand même plus simple sur les nouveaux sites.
Ce sera plus simple. Merci Emmanuelle Rose, cofondatrice de Loup Légumes. Vous avez donc relocalisé la production de champignons en France. On reste ensemble ? On continue à parler manger local sur Europe 1.
Europe 1.
Aider les producteurs grâce à l'économie locale et les circuits courts, c'est bien, mais il faut aussi organiser toute une logistique et une start-up tient cette promesse. Ça s'appelle Promus. Restez avec nous.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag.
Manger local, c'est vraiment l'idéal. En saison estivale comme en saison hivernale.
Acheter ses produits directement chez le producteur, la demande est très forte. Vous le faites, Catherine, Dora ? Vous achetez vos produits directement chez le producteur ?
On essaye. Et moi, c'est vrai que la crise a beaucoup changé de choses. N'ayant pas le choix, en fait, j'ai dû m'y résoudre et c'est très bien.
Et Catherine ?
Oui.
Ouais, vous aussi. Hein. Ouais. Alors voilà, vous le confirmez, la demande est de plus en plus forte, mais les producteurs ont parfois du mal à tout gérer parce que vendre en direct, c'est un autre métier, c'est pas le métier de producteur. Alors Promus les aide grâce à des points de collecte de proximité et réfrigérés. Bonjour Antoine Pulcini.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur de Promus et vous répondez à cette problématique. C'est une solution logistique de containers, les Promus Box, les boîtes que vous fabriquez, pour faciliter la vie des exploitants.
Oui, tout à fait, parce qu'en fait, un exploitant qui va vendre en direct va devoir en fait souvent utiliser ses propres moyens de commercialisation, en plus de son métier de producteur qui lui prend déjà du temps. Et on va lui demander aussi très régulièrement de venir livrer, notamment dans des circuits de distribution comme la GMS ou même des restaurants, ce qui va lui prendre un temps considérable, entre 1 à 2 journées par semaine des fois, et va lui coûter en fait très cher sur son exploitation. Donc c'est un vrai frein au développement des circuits courts aujourd'hui. Et nous, on a voulu trouver une solution pour les aider à gagner ce temps-là et on a inventé ces outils et ces Promus Box.
Alors c'est quoi ces outils ? C'est quoi ces Promus Box ? Ça ressemble à quoi ?
En fait, on s'appuie sur 2 points principaux. Nous, on a travaillé ce qu'on appelle la logistique de cette chaîne alimentaire qui est assez complexe. On l'a vu pendant le confinement, ça a soulevé beaucoup de débats sur la résilience des territoires, sur la capacité d'une chaîne de commercialisation à tenir. Ça a amené des filières complètes à se casser la figure, comme le lait, par exemple, qui a eu beaucoup de difficultés parce que des intermédiaires étaient tombés. Et c'est ce qui fait que le circuit court est de plus en plus plébiscité. Et nous, on est reparti du principe de se dire que si on voulait que le circuit court se développe, et notre ambition, c'est bien que le circuit court soit disponible pour le plus grand nombre, pour tous ceux qui vont aller faire leurs courses dans tous les schémas de distribution classiques et pas forcément aller à la ferme, il fallait avoir un petit peu les mêmes armes que ce qu'on appelle les circuits dits longs, c'est-à-dire les circuits qui ont beaucoup d'intermédiaires. Et ça passe par des outils logistiques. Alors, il y a à la fois des outils, on va dire, physiques, on en a parlé, c'est les Promus Box. Donc, c'est vraiment
Des petits containers, des boîtes, quoi.
Exactement. Voilà, on va dire que c'est une boîte aux lettres, c'est un conteneur réfrigéré. On le met au plus près des agriculteurs pour qu'en fait, ils puissent venir déposer les commandes directement. Et ensuite, nous, on va venir les collecter comme le facteur le ferait et les redistribuer, mais localement, hein, toujours dans une logique de territoire.
C'est comme des petits casiers.
Et on va lui... Exactement. Mmh. Voilà. Mais dans un format professionnel. Et on va lui donner aussi un outil qui va lui faciliter la gestion de ses commandes en vente directe. Parce qu'en fait, il faut imaginer que les agriculteurs, historiquement, ils avaient un client, un seul point de sortie. Quand vous commencez à vendre en direct, vous avez plusieurs clients, vous avez plusieurs circuits de distribution, vous pouvez avoir du e-commerce, vous pouvez avoir des restaurants, des supermarchés. Chacun de ces circuits a son outil, ce qui fait que le producteur, en fait, il se retrouve face à une contrainte de temps, de paperasse qui ne va pas. Donc, nous, on lui fournit un outil frontal qui lui permet de vendre directement.
Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est que vous, à travers cela, vous aidez aussi, par exemple, les restaurateurs à soutenir les producteurs locaux, parce que c'est aussi une solution pour eux.
Facilitateur.
Qui facilite.
Exactement. On vient répondre à une demande croissante du local et du circuit de proximité, encore plus que le circuit court même. Dans les derniers sondages de début d'année, c'est même plébiscité avant le bio, donc de comprendre qui produit. De retrouver la connexion avec l'agriculteur, avec son voisin.
Et de réduire tous les intermédiaires.
Exactement. Et ça a une vertu de compréhension aussi. Ça permet de réduire ce qu'on appelle l'agribashing, c'est-à-dire de toujours tirer sur son agriculteur en disant finalement, il met des pesticides dans son champ, il va détruire la planète, etc. C'est juste de comprendre comment tout ça fonctionne.
Comment ça marche.
Donc, nous, on reconnecte ces deux mondes et on s'attaque surtout chez Promus aux agriculteurs qui sont aujourd'hui en circuit long. C'est-à-dire qu'on s'attaque à ceux qui Enfin, on vient aider tous les agriculteurs qui ont l'incapacité aujourd'hui de vendre en direct. Et justement, on le fait avec des restaurants, on le fait avec des circuits de distribution beaucoup plus massifs, comme la GMS. On va aider aussi dans le cadre de la loi Egalim qui arrive, qui va imposer, entre guillemets, du durable aux cantines, qui se traduit souvent par du local dans les cantines scolaires. Donc, on va venir aider les producteurs à se connecter et les territoires à se reconnecter à la terre.
Donc, vous intervenez auprès de différentes filières. Catherine Testa, notre coach, a une question pour vous.
Alors, je trouve ça déjà très beau parce que c'est l'union fait la force. On mutualise, in fine. Comment vous incitez les agriculteurs à faire appel à vous? Parce que j'entends que ça leur enlève de la pression commerciale. Mais celui qui distribue déjà en circuit long, comment il choisit tout d'un coup de passer aussi par vous?
En fait, on va avoir une logique où on amène avant tout un débouché. Avant de demander qu'est-ce que vous voudrez vendre en direct, on vous demande si vous pouvez vendre ça en direct. Et donc, on amène la demande à l'offre. On ne connecte pas l'offre à la demande. Donc, on arrive avec la demande du local et du territoire. Cette crise a montré que le local revenait aussi en force, mais que territoire avait besoin de se reconcentrer sur lui-même, on va le dire comme ça. Et donc, des circuits de distribution plus classiques qui n'ont pas du tout l'habitude de travailler avec des acteurs locaux ont eu cette demande. Et nous, ce qu'on vient faire, par exemple, c'est prendre un agriculteur qui fait classiquement, 400, 500 tonnes à destination d'une entreprise de transformation qui est à 500 km. Et nous, on va venir en prendre une tonne, deux tonnes, cinq tonnes et le distribuer localement.
Il aura une fierté.
Exactement, il a cette fierté. Et nous, on amène en fait la demande des 5 tonnes. On ne vient pas lui demander s'il veut vendre. On lui dit, on va vous vendre ça.
C'est ça.
Et ça change cette donne. Voilà.
Dora ?
Non, moi, je me demandais, en fait, est-ce que vous facilitez aussi le côté gain de temps que les commandes, elles arrivent plus vite ou qu'elles soient dispatchées différemment?
Alors, nous, on vient... comme on s'attaque à nouveau à ces circuits longs, c'est-à-dire que tous les agriculteurs qui sont aujourd'hui en circuit court, on l'a vu pendant le confinement aussi, ça s'est développé à fond, le circuit court, le local, mais tous ceux qui étaient déjà en capacité de vendre en circuit court se sont tous débrouillés. Toutes les filières qui étaient des filières longues se sont retrouvés avec des produits sur les bras. On a vu des tonnes d'asperges jetées, on a vu des hectares de salades jetées, des fraises, exactement. Et en fait, c'est quand même assez étrange quand on veut plébisciter le Made in France et le manger français. Et on se dit, c'est pas possible, on n'a pas réussi à aller les capter. Nous, ce qu'on a fait pendant ce confinement, c'est justement de reconnecter ces productions-là à des circuits de distribution locaux en oubliant les intermédiaires qui étaient tombés, en fait. Et c'est justement cette capacité-là de connexion de cette demande qui vient favoriser et plébisciter ce circuit-là. Donc, on va davantage s'attaquer à tous ceux qui ont besoin de ça. Et tous ceux qui, effectivement, aujourd'hui, n'ont pas d'autre choix que de vendre à travers un circuit long, on vient leur offrir cette connexion au local.
Alors, vous venez leur offrir, mais ça a quand même un coût.
Alors, nous, on va avoir évidemment un coût de service. Le but, c'est d'être transparent aussi sur chacune des activités.
Comment vous rémunérez, alors ?
Alors, nous, on est distributeur au sens assez simple du terme, c'est-à-dire qu'on vient prendre une marge sur le produit vendu, qui est fonction de notre service, donc qui va être en fonction du volume et de la distance à parcourir, on va dire, en transport, et du service qu'on va mettre. Et on insiste sur cette transparence pour aussi que chacun ait conscience de la part qu'il a apportée au territoire. Et une fois qu'on a mis en place ça dans le territoire, on œuvre pour que le territoire réinvestisse aussi avec ses agriculteurs, fasse en sorte que de nouveaux agriculteurs se repositionnent sur le territoire. Parce que, en fait, c'est vraiment dans une logique de recréer quelque chose sur le territoire, de recréer du lien. En recréant du lien, on recrée aussi
vous,
des emplois.
Vous, l'agriculture fixe un prix avec vous et vous le payez au prix fixe, c'est ça ?
L'agriculteur fixe son prix.
Ouais.
Il définit lui-même son prix avec son acheteur. Dans une logique qui n'est pas une logique de variation de prix. On insiste beaucoup là-dessus.
Voilà, donc c'est il est payé au prix fixé. Hein, et ensuite, voilà. Vous, quand vous le revendez au restaurateur, là, j'imagine que vous prenez une marge, une commission, ce qui est tout à fait normal,
exactement.
Puisque vous lui faites du business, comme on dit.
Exactement. Et en fait, le gros avantage de cette solution, c'est que nous apportons, par exemple, à un agriculteur 5-10 commandes en même temps qu'il va regrouper en une seule fois, donc il va économiser du temps. Et de la même manière, un restaurateur qui aurait besoin de crème, de viande, de maraîchage, plutôt qu'il ait 5 producteurs avec 5 factures, avec 5 paiements, avec 5 coups de sonnette tous les jours pour venir livrer, nous, on va venir livrer en une fois, une seule facture, un seul paiement. On veut aussi simplifier cette chaîne.
Dora, il y a beaucoup, beaucoup de projets qui fleurissent pour produire plus local.
Oui, il y a par exemple Green Hell, c'est une ferme aquaponique qui veut produire des truites locales. Alors, ça devait s'installer à Paris.
Des truites ?
Oui, il y a plus d'un an. Bon, c'est un peu plus le projet, j'ai eu la dame ce matin, c'est un petit peu plus compliqué. Mais en tout cas, ce n'est pas abandonné. C'est un réservoir à Grenelle, donc en plein cœur de Paris, pas très loin d'ici, qui pour l'instant, c'était incubé chez Rungis & Co. Et en gros, leur objectif, c'est de produire 5 tonnes par an de truites fraîches et fumées. Mais pas que aussi. Ils veulent produire 25 à 30 tonnes par an de fruits et légumes, des herbes aromatiques, des fleurs, pas suffisant bien sûr pour nourrir Paris, mais toutes ces initiatives mises bout à bout, on voit bien, ça fait bouger les lignes et les idées fusent.
Et ben ouais, c'est ça, produire local, tout est possible, même avec les truites et à Paris, comme quoi on peut tout imaginer. On reste ensemble, on mange local sur Europe 1.
Europe 1.
Direction Rennes, ils travaillent seulement avec des commerçants locaux et ils apportent directement les produits chez les particuliers. Il n'y a pas plus local que ça. Restez avec nous, on va parler de cette solution dans un instant.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag.
On consomme local aujourd'hui dans la France bouge. Bonjour Quentin Chassine.
Bonjour.
Merci d'être sur Europe 1. Merci à vous. Vous êtes le directeur général de Marché Délices. Marché Délices, c'est une plateforme située à Rennes qui permet d'acheter des produits directement à des petits commerces et ensuite ils sont directement livrés à la maison. Vous existez depuis 3 ans et donc finalement vous vous adressez à celles et ceux qui n'ont pas le temps de se rendre chez le commerçant du quartier.
Voilà, tout à fait. Donc on existe depuis 3 ans, on a développé Marché Délices qu'on utilise depuis 2 ans, donc qu'on met en place. Et effectivement, c'est un service de vente en ligne pour les commerçants alimentaires, pour qu'ils puissent proposer leurs produits, pour qu'ils puissent également se mettre à disposition des Rennais, parce que ça facilite l'accès à ces commerçants, on les retrouve plus facilement, et on a le système de livraison également pour tout Rennes, à l'intérieur de la ville et de la périphérie. Donc effectivement, on a une plateforme, une sorte de marketplace, mais très orientée sur le local.
Parce que tous ces commerçants, vous avez dû partir d'un constat, c'est qu'ils n'ont pas forcément le site internet, la plateforme, la vitrine pour se faire connaître. Donc finalement, ça sort pas trop du commerçant de quartier, c'est ça ?
Effectivement, aujourd'hui, il y a des solutions qui commencent à émerger pour que les commerçants puissent faire leur site internet. Après, il y a une certaine problématique de gestion. Si c'est relié à la caisse, et ben forcément, ça va être plus simple pour la gestion de stock. Autrement, ça va être un autre canal de vente dont le commerçant va devoir s'occuper. Ces problématiques-là, il faut que le commerçant s'y plonge et qu'il le fasse. Nous, on veut avoir ce côté facilitateur. On apporte une solution existante qui fonctionne et qui est du coup qui se met en place en quelques semaines.
Et c'est le cas, en 3 ans, vous avez vu et observé une évolution ?
Oui, tout à fait. Donc
quoi ?
Il y a 3 ans...
Elle se traduit comment ?
Ça se traduit par beaucoup plus de réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de commerçants qui sont connectés sur les réseaux sociaux. Ça leur permet aussi d'être toujours en contact avec leurs clients et puis d'avoir des questions à distance. C'est déjà une certaine digitalisation. Aujourd'hui, effectivement, comme je disais, on a des caisses qui permettent d'avoir des sites internet. Et il y a 3 ans, il y a même 2 ans, on avait encore du mal à trouver nos commerçants. On utilise beaucoup Maps de Google qui nous permet de trouver trouver des commerçants qui peuvent être soit spécifiques ou même dans notre quartier. Mais autrement, il n'y a pas vraiment, on ne sait pas forcément ce que va proposer ce commerçant, quels sont les produits, s'il a des événements. Tout ça, c'est de l'information qu'on va chercher en fait quand on va dans le commerce.
Mais si
on
en fait, vous menez comme un petit audit hein, quand vous allez démarcher votre commerçant. Vous prenez la photo des produits et c'est comme ça que vous mettez en avant chacun de leurs produits.
Voilà, on leur facilite vraiment cet aspect-là de gestion. Donc oui, on va prendre les photos parce que c'est important sur du e-commerce d'avoir une même similarité de photos, qu'elles soient prises un petit peu pareilles, et puis une qualité de photos, c'est important pour le consommateur.
Catherine Testa, notre coach, a une question pour vous.
Alors, c'est vraiment le digital au service de l'humain aujourd'hui. Est-ce que vous voyez que finalement, les Rennais commencent à changer leurs habitudes de consommation, viennent de plus en plus sur votre site web? Est-ce que le fait de se rendre compte aussi que le commerçant propose à côté de chez soi du fromage, etc., c'est intéressant pour vous? Vous voyez un changement déjà ou pas?
Oui, on a la chance à Rennes d'avoir beaucoup de circuits courts et de commerces qui sont orientés dans cette distribution, dans cette forme d'accès aux produits. Donc, on a le marché d'Élysée aussi, qui est le marché central tous les samedis, qui attire toujours énormément de monde. Donc, oui, le Rennais est très orienté déjà sur des produits. Locaux,
authentiques et sains.
Voilà. Et nous, en ayant aussi ces valeurs hein, responsables et durables, on a voulu apporter via la technologie, mais du coup rapprocher ces produits. Donc on a une charte qui est notre charte d'engagement, notre charte un peu responsable. Donc on s'engage à avoir des produits qui soient responsables de l'environnement
et de qualité.
Du coup, de qualité. On veut des produits qui soient direct producteurs, donc des produits équitables, au maximum locaux, pas
et
forcément.
Pourquoi vous restez que seulement à Rennes? Vous comptez vous développer?
Alors, on compte se développer effectivement, mais plutôt au service des communes et des associations de commerçants pour dupliquer un peu ce service, mais le mettre à disposition d'autres territoires.
Comme si vous le franchisiez, c'est ça?
Voilà. En fait, on va plutôt fournir le service technologique.
Vous voulez servir la solution technique. Dora, c'est des plateformes qui aident les producteurs à développer leur site internet. Hein. C'est un monde qui se digitalise et on le voit de plus en plus.
On voit Promus et il y a aussi une autre plateforme qui s'appelle Manger Français et qui aide les producteurs en créant un peu de la même manière leur boutique numérique pour proposer leurs produits à la vente, parce qu'on voit bien, c'est souvent la difficulté que retrouvent les producteurs. Donc là, c'est une prise en charge totale également. Ils créent la boutique virtuelle, ils accompagnent les producteurs jusqu'à la communication. Ils sont aussi associés à une start-up, du coup, qui gère tout ce qui est envoi des colis et qui assure l'envoi notamment des produits frais. Et on voit beaucoup se développer énormément d'initiatives locales. Le département de la Gironde, par exemple, a énormément aidé en cette période en mettant en place des plateformes de producteurs girondins, de produits locaux Nouvelle-Aquitaine. On se géolocalise et on trouve tous les producteurs à proximité et on peut se faire livrer. Et c'est en train de se faire un peu dans toutes les régions de France et c'est très chouette.
Ça se développe complètement. Ouais. Quentin Chassine, au niveau de la rémunération, vous prenez une marge importante parce qu'il y en a des plateformes comme les vôtres. Hein, on en a pas mal aussi sur Paris, la région parisienne. Et on a parfois, ça avoisine jusqu'à 25-30% de marge. Vous vous situez comment auprès de vos commerçants?
Effectivement, nous en fait, on a mis en place un système de marge qui diffère en fonction du produit et du prix du produit.
Pour chaque produit ou du panier?
Plutôt par typologie de produit.
D'accord, donc ça donne
quoi? On
ne marche
pas la même chose sur des fruits et des légumes, là où un primeur lui-même ne marche pas beaucoup sur les produits, qu'avec par exemple un caviste. Mm-hmm.
Vous êtes à combien de marge? Vous avez quand même
en
une
moyenne,
estimation.
En fait, on varie entre 7 et 15%.
Ouais, ça reste en deçà de certaines plateformes. Catherine?
Ça permet aussi de rapprocher le producteur du client final aussi, ce genre d'application. Et ça sensibilise de fait chacun. Et c'est nous les consommateurs, à nous de plus en plus d'aller utiliser ce genre de plateforme aussi.
Au début, les commerçants ont été un petit peu frileux. Quand ils vous voient arriver, ils vous voient comme le messie ou au contraire, ils ont du mal et il faut redoubler d'efforts pour les convaincre?
Alors, effectivement, c'est pas toujours évident de présenter les avantages de la vente en ligne et puis de rajouter potentiellement de la gestion pour le commerçant. Donc, ça n'a pas toujours été évident, surtout que nous, on s'est vraiment orienté sur les métiers de bouche, donc des commerces assez traditionnels. Mais ça ne nous a pas empêché d'en avoir et d'en gagner continuellement. Parce que certains vont avoir une certaine affinité et vont comprendre que potentiellement, bah, pourquoi pas essayer, il y a peut-être une clientèle au bout, une nouvelle clientèle pour ces commerces. Aujourd'hui, en fait, on a aussi une orientation vers des épiceries et on a eu des très très bons retours vers les épiceries, vers aussi des. Parce qu'on prend des boutiques physiques, mais on prend aussi des commerçants qui revendent leurs produits. Donc des artisans qui revendent leurs produits dans différents commerces. Ils peuvent également avoir une boutique en ligne.
Grâce à votre solution.
Tout à fait. Donc on peut leur faire en fait une boutique. Pareil pour les artisans locaux.
Merci Quentin Chassine. Merci beaucoup. Oui. Vous êtes le directeur général de Marché d'Élise. Catherine, Dora, vous êtes convaincue par tout ce qu'on vient d'entendre ?
Oui, moi ça m'a donné beaucoup d'espoir en fait. Et je me dis que demain nos enfants ils se nourriront plus jamais comme nous. Et voilà, il n'y aura peut-être plus de retour en arrière.
On sera dans une mutation.
On va consommer local. Et au final, ils vont consommer comme on nous parlait dans le temps, c'est-à-dire comme on entendait parler nos grands-parents de la consommation. Et ça, je trouve ça chouette.
Catherine ?
On revient aussi probablement à un peu de bon sens. On s'était un peu éloigné du bon sens et les outils vont dans le sens du bon sens. Donc, je suis très optimiste.
Merci Catherine Testa. Je rappelle que vous êtes la présidente du club des Chief Happiness Officers d'Oranana. Merci.
Merci Elisabeth.
Bonne journée sur Europe 1.